Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez. La Libre Antenne, c'est dans 30 minutes et profitez-en. Vous le savez, le vendredi, vous commentez l'actualité de votre choix. Tous les sujets nous intéressent. Pour vous donner une idée des sujets qui nous arrivent au standard et sur nos réseaux sociaux, vous êtes encore un certain nombre ce matin à souhaiter nous interpeller sur les tensions entre le Niger et le Bénin. Des réactions à la mort dans des circonstances troubles de l'ex numéro 2 de la junte guinéenne. On nous appelle du Sénégal après l'entrée en vigueur de la baisse du prix de plusieurs produits alimentaires. Autre sujet très commenté au Sénégal, près de 3 mois après sa nomination, le Premier ministre Ousmane Sonko n'a toujours pas fait son discours de politique générale, comme le veut la coutume. Et on nous appelle du Tchad, et on a reçu d'ailleurs plusieurs commentaires sur cette actualité. Une avenue à N'Djamena, dans la capitale, porte désormais le nom du président congolais Félix Tshisekedi. Et visiblement, ça fait donc réagir. La Libre Antenne, on vous attend au standard 33 9 693. 693 70 et vos commentaires également sur nos réseaux sociaux. Mais d'abord, vos questions et nous allons commencer avec Fadel. Bonjour.
Ron, bonjour. Comment allez-vous?
Bah écoutez, très très bien. Et vous, à Port-Gentil, au Gabon?
Oui, je vais bien, merci.
Vous allez bien. Merci en tout cas de nous appeler. Vous avez des questions sur l'élection présidentielle au Venezuela. Vous avez suivi quelques avant-papiers sur l'antenne de RFI. Élection qui se tiendra dans tout juste un mois.
Oui, Ron. Au Venezuela, à un mois de l'élection présidentielle, ben les sondages donnent le nouveau candidat de l'opposition largement vainqueur face à Nicolas Maduro.
Oui.
Bon, comment expliquer le désaveu de la population à l'égard du président sortant?
Et ce nouveau candidat de l'opposition s'appelle Edmundo González. Il caracole en tête des intentions de vote. Bonjour Arim Lipold.
Bonjour, bonjour Fadel, bonjour à tous.
Journaliste au service international de RFI, Nicolas Maduro qui brigue un troisième mandat et visiblement il est désavoué.
Il est désavoué après 11 ans quand même au pouvoir. Donc il y a une certaine usure du pouvoir. Et puis il y a aussi la situation économique qui a empiré pendant ces 11 ans. Une situation économique catastrophique qui pousse, rappelons-le, comme de nombreux Vénézuéliens, ceux qui peuvent quitter le pays. Le Venezuela a perdu 15% de sa population en 10 ans. L'inflation reste à un niveau très élevé, presque 2% l'année dernière. La pauvreté augmente toujours. Plus de la moitié des Vénézuéliens vivent aujourd'hui dans la pauvreté. Ils doivent aussi lutter contre la précarité des services publics du secteur de la santé. On est face à une défaillance, tout simplement, de l'État vénézuélien.
Un État qui est de plus en plus confronté d'ailleurs à une corruption.
Exact.
La corruption à grande échelle.
À une corruption à grande échelle. Selon l'organisation, ça mérite d'être cité, l'organisation Transparency International, le Venezuela est le deuxième pays le plus corrompu au monde, tout juste après la Somalie. L'ONG cite en fait un système de grande corruption qui va de pair avec la main mise sur le système législatif, réglementaire et judiciaire. Donc ça en dit long aussi sur le système politique au Venezuela, où les fonctionnaires de haut niveau s'assurent que leur pouvoir ne leur échappe pas. Donc Nicolas Maduro, finalement, en dépit de quelques opérations anti-corruption très très médiatisées, n'a jamais su prendre ce problème à corps le bras. Et puis c'est aussi une des raisons pour lesquelles finalement aujourd'hui il est largement désavoué par la population.
Et un récent sondage donne l'opposant largement en tête avec plus de 50%
absolument
des voix. On rappelle que le scrutin présidentiel au Venezuela se joue à un seul tour. Hein.
Le 28 juillet.
Le 28 juillet. Oui. Vous avez une autre question, Fadel?
Oui, Juan. Pourquoi l'opposition a choisi ce candidat alors qu'il est peu connu de la population?
Ah bah, il était même inconnu des Vénézuéliens lorsqu'il a été choisi comme le candidat de l'opposition, c'est bien ça, Arim?
Absolument, oui, c'est un ancien diplomate et tout le monde a pris son nom lorsque l'opposition a sorti son nom du chapeau. Alors, pourquoi ce candidat? Eh bien, ils étaient tout simplement obligés parce que les autres candidats, deux autres candidates qui ont été proposés par la MOUD, hein, c'est une coalition en fait de plusieurs partis d'opposition, ont été refusés par le Conseil national électoral qui a donc invalidé la candidature d'abord de Maria Corina Machado.
Qui elle, pour le coup, est très populaire au
Venezuela. Très populaire, ouais. Elle a remporté les primaires de l'opposition, donc elle n'a pas pu se présenter, sa remplaçante non plus.
Ah oui.
Et donc l'opposition avait quelques jours pour choisir un nouveau candidat. Et donc c'est celui-là.
Donc c'est la route de secours.
Edmundo González Urrutia, le route de secours, oui. Exactement, mais il caracole dans les sondages. Ça montre quand même à tel point le président sortant, Nicolas Maduro, est impopulaire.
On suivra ça évidemment grâce à vous et au service international de RFI. Fadel, on a répondu à votre question ?
Et comme d'habitude, avec RFI, on est toujours satisfait.
Ah, bah ça, c'est un beau slogan. Comme d'habitude, avec RFI, on est toujours satisfait. Je vais le signaler au service communication de France Média Monde. Bonne journée, Fadel. À très vite, à Rémy-Lipold. Il est 10h16 à Paris. On va parler cyclisme. On a un fan du Tour de France au standard. Bonjour, Samuel.
Bonjour, Anne. Bonjour à tout le monde.
Le Tour de France qui démarre demain.
Oui, la 111e édition du Tour de France commence demain. Quels coureurs cette année vont pouvoir rivaliser au classement final avec Tadej Pogacar ou Vingegaard?
Ah bah vous savez quoi, qui de mieux placé que l'envoyé spécial de RFI pour vous répondre? Bonjour Thomas de Saint-Léger.
Bonjour Juan et bonjour Samuel.
En direct de Florence, où sera donné demain donc le départ du Tour de France. Effectivement, Vingegaard et Pogacar sont les favoris incontestables de cette nouvelle édition.
Ouais, c'est vrai qu'on s'attend, comme lors de ces trois dernières années, à un mano à mano, un duel entre ces deux superstars du cyclisme et du Tour de France. Jonas Vingegaard, le Danois, donc double vainqueur sortant, et Tadej Pogacar, le Slovène, son dauphin en 2022 et 2023, vainqueur lui des éditions 2020. Et 2021, un bémol quand même pour chacun de ces garçons. Vingegaard n'a pas couru depuis début avril et une chute terrible sur le Tour du Pays Basque. On a eu très peur sur le coup pour sa santé. Il a passé plusieurs semaines à l'hôpital. Il s'est ensuite lancé dans un contre-la-montre pour être ici au départ. Il est là. Son équipe Visma assure qu'il est prêt, lui aussi, mais il y a forcément une inconnue sur son véritable état de forme. Pour Pogacar, c'est différent. L'inconnu, là, vient plutôt de sa capacité à enchaîner le Tour d'Italie, le Giro, qu'il a survolé au mois de mai avec une autre course de 3 semaines, encore plus exigeante, évidemment, le Tour de France. La période de récupération est très courte. Beaucoup ont tenté ce pari dans le passé. Très peu l'ont réussi. Le dernier, c'était Marco Pantani, le regretté pirate italien en 1998.
Donc, à vous entendre, il y a quand même peut-être une petite fenêtre pour ceux qui voudront essayer de se frotter à ces deux grands favoris.
Oui, et là on pense, à un autre Slovène hein, dans ses arbitres du duel, Primoz Roglic, souvent malchanceux sur le Tour de France. Il a remporté au début du mois le Critérium du Dauphiné, qui est un petit peu la course répétition avant la grande boucle. On pense aussi à Remco Evenepoel, le Belge, ancien champion du monde, déjà vainqueur d'un Tour d'Espagne, première participation au Tour de France. À 24 ans, il est peut-être un petit peu limité face au tout meilleur en très très haute montagne, mais c'est un gros moteur, un gros rouleur, spécialiste du contre-la-montre. Et cette année, il y en aura deux. Le deuxième, lors de la toute dernière étape entre Monaco et Nice, s'il est encore dans le coup à ce moment-là, Evenepoel pourrait peut-être tout renverser. On va aussi citer pêle-mêle Carlos Rodriguez, l'Espagnol, Egan Bernal, un revenant, le Colombien, vainqueur 2019, Adam Yates, le Britannique, Joao Almeida, le Portugais, qui sont tous les deux dans la même équipe que Pogacar, mais il pourrait pourquoi pas prendre le statut de leader en cas de problème pour le Slovène. Et puis on n'oublie pas David Gaudu, le Français, même s'il est très en retrait depuis le début de saison.
On vous garde encore quelques instants, Thomas de Saint-Léger. Samuel a une dernière question à vous poser.
Oui, quelles étapes seront particulièrement décisives ou spectaculaires cette année?
Thomas de Saint-Léger.
Bah, toutes, j'ai envie de vous répondre, toutes les étapes, évidemment, c'est la magie du cyclisme, du Tour de France. Il peut se passer quelque chose à n'importe quel moment. Vous êtes tranquillement en train de faire la sieste devant une étape toute plate, sans grand suspense, jusqu'au sprint. Et puis, tout d'un coup, un fait de course la rend très animée. Ça, c'est sur le principe. Pour parler plus précisément de celles qu'il ne faudra pas manquer, j'en ai coché évidemment les deux premières en Italie. D'abord, avec déjà beaucoup d'ascension, une course
les
qui
Alpes.
Pourrait se décanter très tôt. Les Alpes, dès la quatrième étape, passage dans les Alpes avec le col du Galibier. La neuvième étape, attention au piège de la route sur les chemins blancs de vigne autour de Troyes. Ça pourrait être très spectaculaire là aussi. Traversée du Massif central, étape très difficile le 10 juillet. Et puis ensuite, vous connaissez les classiques, les Pyrénées, 13 et 14 juillet. Les Alpes à nouveau, mais les Alpes du Sud entre la 17e et la 20e étape notamment. Attention à noter ça sur votre petit agenda. Le 19 juillet, un passage à 2800 mètres d'altitude, la cime de la Bonnette. Et puis le point final, inédit cette année, pas de Champs-Élysées, mais ce contre-la-montre potentiellement décisif entre Monaco et Nice. Beaucoup de belles choses, donc on a hâte que ça commence.
Et ça commence donc demain, le coup d'envoi sera donné à Florence en Italie. Vous nous ferez vivre cette 111e édition du Tour et effectivement, l'arrivée n'aura pas lieu sur les Champs-Élysées en raison des Jeux Olympiques, actualité sportive très chargée cet été en France. Samuel, a-t-on répondu à vos questions? Êtes-vous satisfait?
Oui, très très bien, vraiment, merci et bonne émission à vous.
Et merci à vous et bon Tour de France. Samuel, est noté la date du 19 juillet, hein, à ne pas manquer, 2800 mètres d'altitude. Thomas Saléger, bon courage.
Merci Erwan.
Et on
émission.
Vous retrouve évidemment tout au long de cette 111e édition du Tour de France. Djoukou Lolo nous rejoint au standard. On va parler d'un tout autre sujet, des questions sur le retrait progressif des casques bleus de la République démocratique du Congo. Bonjour Djoukou Lolo.
Bonjour Juan, bonjour RFI.
Et bienvenue, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous êtes au Niger, quelles sont vos questions?
Alors, la MONUSCO a fermé la semaine dernière sa base dans la région du sud de Kivu, début de son désengagement de la RDC. Ma question, qu'est-ce que la MONUSCO et la RDC ont mis en place pour assurer la sécurité de la zone?
Alors, la dernière base a été fermée cette semaine. C'était mardi, pour être précis. Bonjour Adolphe Aguenonga-Chaubert.
Bonjour Juan.
Spécialiste des mouvements armés dans l'est de la RDC, vous êtes professeur à l'université de Kisangani. C'est vrai que c'est une question que beaucoup de Congolais se posent et je l'ai entendu d'ailleurs plusieurs fois hier dans l'émission que nous avons consacrée justement à cette thématique. Le départ de la MONUSCO, le départ des casques bleus risque-t-il de créer un vide sécuritaire?
Oui, bien entendu. L'auditeur venait de le rappeler tout à l'heure, c'est le 25 en juin dernier que la aussi qui vous a fermé et cela marquait la fin de la première phase du retrait de la MONUSCO. Alors pour répondre à la question de l'auditeur, quels sont les dispositifs sécuritaires qu'on a mis sur pied après le retrait de la MONUSCO? Et je pense que la MONUSCO a laissé quelques agences du système des Nations Unies qui seront appuyées par une équipe résidienne de 34 civils. Et cette équipe aura pour mission de maintenir les réseaux d'alerte communautaire en vue de protéger notamment les enfants et de poursuivre avec le dialogue communautaire. Mais ces dispositifs paraissent très inefficaces dans la mesure où le plan du retrait de la MONUSCO prévoyait le fait qu'au moins 7 bases de la MONUSCO et 4.
Alors, Adolphe Aguenonga-Chaubert, je suis désolé, vraiment, le réseau de téléphone n'est pas très bon. Voilà, on essaie d'établir une liaison comme il se doit, évidemment, avec Kisangani. On essaie de vous retrouver avant la fin de cette émission, de régler tout cela hors antenne. Sinon, on vous rappelle, évidemment, au début de semaine prochaine. Djoukou Lolo, vous patientez donc également au standard. On va prendre un autre auditeur, Messi Fidèle, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous avez des questions sur la libération du lanceur d'alerte Julian Assange?
Exactement Juan. En fait, la justice américaine et Julian Assange ont trouvé un accord permettant au fondateur de Wikileaks de retrouver la liberté après 5 ans de détention. À ce propos, je voudrais savoir comment expliquer qu'un tel accord ait été trouvé alors que Julian Assange risquait 175 ans de prison aux États-Unis.
Ouais, 175 ans de prison aux États-Unis pour avoir publié, rappelons-le, plus de 700 000 documents confidentiels américains. Bonjour Olivier Tesquet. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à la cellule Enquête de Télérama. Vous avez publié avec Guillaume Ledy « Dans la tête de Julian Assange ». C'est aux éditions Actes Sud. Expliquez-nous cet accord qui a permis à Julian Assange de recouvrer la liberté.
Alors déjà, faut préciser qu'effectivement, tout le monde a été un peu pris de court par la signature de cet accord de plaidé coupable, parce qu'on en était resté à l'épisode précédent, qui était que Julian Assange avait obtenu de former un appel devant la justice britannique pour contester son extradition. À partir de là, ce qu'on peut imaginer, c'est que les autorités américaines s'exposaient quand même à la possibilité, parce que la justice britannique les a quand même un peu embêtés ces dernières années à demander des garanties, à redemander des garanties, à pas toujours tirer exactement dans le sens qu'auraient souhaité les autorités américaines. Et il y avait un vrai risque pour les États-Unis que son extradition soit refusée. Et donc un risque de vraiment, vraiment tout perdre, entre guillemets. Donc on peut se dire, quelque part, que cet accord de plaidé coupable permet aux États-Unis de sauver la face, puisqu'ils obtiennent une condamnation. On entend beaucoup de gens se réjouir de la libération de Julian Assange, mais il faut quand même préciser qu'il a été condamné à une peine qui équivaut à ce qu'il a déjà purgé dans l'équivalent d'une détention provisoire.
62 mois de prison.
Voilà, 62 mois de prison, ce qui correspond aux 5 années qu'il a passées dans cette prison de Belle Marche à Londres. Alors c'est très inférieur aux 175 ans qu'il risquait avec les 17 chefs d'accusation qui pesaient contre lui, mais ça reste une condamnation. Un autre paramètre qu'on peut prendre peut-être en compte, c'est le fait qu'on arrive à la fin du mandat de Joe Biden. On se souvient qu'à la fin du mandat de Barack Obama, Chelsea Manning, qui était la source de Wikileaks, qui avait été condamnée à 35 ans de prison, avait vu sa peine commuée par Barack Obama. Bon, là, ce n'est pas une commuation de peine, ce n'est pas une grosse présidentielle non plus.
Donc, à vous entendre, excusez-moi Olivier Tesquet, à vous entendre, Joe Biden est forcément intervenu.
Bah, en tout cas, il y a eu des discussions diplomatiques. On sait que ces dernières semaines, ces derniers mois, voire ces dernières années, les autorités australiennes notamment ont entamé des négociations assez discrètes pour peser dans la libération de Julian Assange, insistant sur le fait que voilà, l'acharnement ne pouvait plus durer, qu'un beau matin on allait se réveiller en apprenant qu'il était mort dans sa cellule, ce qui n'est pas une excellente publicité pour un régime démocratique. Et donc on peut raisonnablement imaginer que les discussions sont quand même remontées assez haut avec les différentes parties impliquées, et que ça n'a pas seulement été une discussion au niveau du département de la justice américain.
Et donc Julian Assange a donc accepté de reconnaître qu'il était coupable d'obtention et de divulgation d'informations sur la défense nationale, condamné donc à 62 mois de prison, vous le disiez Olivier Tesquet, peine déjà couverte donc par les 5 années qu'il a purgées en détention provisoire. Vous avez une dernière question, Messie Fidèle, allez-y, profitez-en.
Exactement. Je voudrais savoir si Julian Assange va continuer ses activités avec Wikileaks.
Que savez-vous, Olivier Tesquet ?
Comme tout le monde, pas grand-chose à ce stade. Je pense qu'il va d'abord retrouver sa famille, ses enfants, qu'il a très peu vus ces dernières années, puisque ses enfants, qui sont petits encore, ont grandi pendant sa détention. Après, Julian Assange a prouvé quand même depuis le tout début de sa carrière, depuis son adolescence presque, un certain entêtement par rapport à ses idéaux. Donc, est-ce que ce sera par le biais de Wikileaks ou est-ce que ce sera par un autre véhicule, entre guillemets, je ne sais pas, mais il y a fort à parier qu'ils ne disparaissent pas complètement du paysage médiatique. J'ai un peu de mal à imaginer Julian Assange se ranger complètement des voitures et couler des jours heureux et paisibles maintenant qu'il a été rendu à la liberté.
L'un de ses avocats a d'ailleurs dit qu'il continuera avec force son combat en faveur de la liberté d'expression et de la transparence. Merci infiniment Olivier Tesquet. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage coécrit avec Guillaume Ledy, « Dans la tête de Julian Assange », c'est aux éditions Actes Sud. Messie Fidèle, je vous souhaite une bonne journée.
Oui, merci beaucoup, à vous également.
Merci bien, vous restez à l'écoute de RFI. Dans 10 minutes, ce sera la libre antenne. Vous commentez l'actualité de votre choix, vous continuez à nous appeler. Allez, il reste encore quelques places. 33 9 693 693 70 et vos commentaires également sur nos réseaux sociaux. On aura d'autres questions évidemment lundi. D'ici là, vous nous les envoyez, on les lit et on fait le maximum évidemment pour contacter nos envoyés spéciaux, nos correspondants, nos experts également. C'est avec plaisir qu'on vous permet de mieux décrypter tous les sujets que nous traitons dans nos différentes éditions. À suivre dans 5 secondes maintenant, la dernière édition d'Afrique Matin.